bonjour à tous et à toutes. Merci encore pour votre invitation et merci de pouvoir ensemble encore partager la parole de notre Seigneur et puis être là, présent ensemble. C'est vrai que ça fait du bien de se sentir aimé, entouré et surtout dans, parfois quand on traverse des moments un peu plus difficiles, c'est bien de sentir la famille du Seigneur qui est à côté. Et c'est surtout bien aussi de savoir par rapport au texte que nous venons de lire que nous avons un privilège, un avantage, enfin quelque chose d'incommensurable de savoir que le livre, là, ce livre que nous venons d'ouvrir, de lire quelques versets qui est à côté de nous, c'est un livre qui résiste au temps. Et nous avons des encouragements dans les versets que nous venons de lire, tout en sachant que ce n'est pas un livre de paroles mortes, mais c'est un livre de paroles vivantes. Ça veut dire qui agit. Et en plus, par la parole vivante et permanente, c'est un livre qui reste le même hier, aujourd'hui et éternellement, parce que c'est le livre de la parole de Dieu. Et puis nous voyons aussi un peu après, hein, au verset 25, la parole du Seigneur demeure éternellement. C'est pour ça que ce livre résiste au temps. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Vous savez, vous avez sûrement étudié à l'école, ou entendu parler, plus particulièrement selon les études que nous avons faites, de Voltaire. Voltaire a écrit dans son journal cette phrase. Il dit « Je viens de relire quelques pages de la Bible. » Assurément, ce livre n'est plus pour notre temps. « Je ne donne pas un siècle pour que la Bible ne soit plus que l'almanach de l'an passé. » S'il savait. Qu'est-ce qui lit encore les pamphlets de ce philosophe, hein, qui se prétendait capable d'éteindre la vérité de Dieu? Je serais même incapable de brûle pour point, sans y réfléchir, de vous dire ce qu'écrit Voltaire. Ni en quelle année il est né, ni en quelle année il est mort. La Bible, le livre de toutes les attentions, hein. C'est un livre que, au travers des siècles, certains ont voulu le brûler. Sur certaines places du village, on faisait des immenses feux en brûlant toutes les Bibles, enfin en brûlant les Bibles qu'on trouvait. C'est un livre qu'on a voulu éradiquer, qu'on a voulu réfuter, qu'on a méprisé, qu'on a aussi ridiculisé, qu'on a rejeté. C'est un livre qu'on a voulu controverser. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas la parole de Dieu. Qu'on a voulu interdire. Mais toujours en vain dans toutes ces multiples actions qui ont été menées pour éradiquer ce livre de la parole de Dieu, comme s'il était indestructible. Dans Matthieu, au chapitre 5, au verset 18, il est bon de se rappeler ce verset, « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, une seule virgule, une seule lettre ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » C'est pour ça que ce livre, c'est un livre qui résiste au temps parce que tout n'est pas accompli. Après, quand le Seigneur aura emmené ses enfants, qu'en restera-t-il? Je ne saurais pas vous dire. Mais tant que Jésus n'est pas revenu, la Bible restera indestructible. Et puis un peu plus loin, dans Matthieu chapitre 25, chapitre 24, au verset 35, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Il y a des choses qui se sont déjà passées, des cataclysmes, des tremblements de terre, mais le ciel et la terre ne sont pas encore passés. Et c'est pour ça que la parole de Dieu demeure encore parmi nous. Alors cette Bible, hein, on a vu parole vivante d'un Dieu vivant. Ce n'est pas parole vivante d'un Dieu mort. Cette parole adressée aux hommes, hein, 66 livres sur environ 15 siècles, 1500 ans, par 40 auteurs différents. Hein, il suffit de se pencher un petit peu pour savoir qui a écrit. Des ministres, des archivistes, des médecins, des poètes, des philosophes, des prophètes, des apôtres. Et on voit que c'est des gens bien différents, surtout socialement parlant. Des érudits, mais des gens aussi peu instruits. Le genre littéraire aussi différent. À l'intérieur de cette Bible, on trouve des récits, des poèmes lyriques, des discours, des drames, des maximes, des lettres. Eh bien, malgré tout cela, toute cette diversité, une merveilleuse unité d'inspiration et de pensée, parce que tous ont été conduits, inspirés par Dieu lui-même. La Bible, parole vivante qui s'adresse personnellement à celui qui la lit. Qui n'a pas été touché par tel et tel verset en lisant la Bible? Je pourrais aujourd'hui vous lire entièrement la Bible, peut-être que rien ne vous frapperait. Mais quand on est face à face avec sa Bible, avec la présence de Dieu, c'est là où elle nous accroche, elle nous interpelle, elle nous réconforte, elle nous reprend. La Bible, toutes ces paroles prophétiques dont les révélations se sont réalisées, hein, la plus grande réalisation, c'est Jésus annoncé ce qui allait se passer, et ça s'est réellement passé. Et certaines de ces prophéties ne se sont pas encore réalisées, comme pour le retour de Jésus. La Bible reste le best-seller en termes de nombre d'impressions, ces millions de livres qui ont été imprimés et réimprimés et réimprimés, et puis aussi de toutes ces traductions qui ont été faites. Lisons Luc 21, les versets 25 à 33. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison, voyez le figuier et tous les arbres, dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même, en regardant, que l'été est déjà proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Et la confirmation, c'est le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. La parole du Seigneur demeure éternellement. Alors pour en revenir à notre ami Voltaire, de son temps, la Bible n'était traduite qu'à peu près en une trentaine de langues. elle est maintenant diffusée quasiment sur toute la terre entière, en environ 2000 langues et dialectes différents. 2000. Voltaire, s'il était là, que penserait-il de son affirmation ? Son livre qui... cette Bible qui disparaîtrait dans l'année. Et puis tous ces livres qui ont été écrits, hein, je pense là à Nostradamus, qui a annoncé toutes les révélations selon Nostradamus. Rien ne s'est réalisé parce que ça ne venait pas de Dieu. D'ailleurs, la Bible garde bien le secret de savoir quand ces choses se passeront. Alors la parole de Dieu peut être comparée à, j'ai relevé, on va dire, 7 points principaux, la liste n'est pas exhaustive, mais c'est pour en développer au moins 7. La Bible, la parole de Dieu est comparée à un marteau. Aïe, je ne sais pas si vous avez déjà, en bricolant, pris un petit coup de marteau sur les doigts, quand vous y avez mis un petit peu de force, ça pince. Eh bien la Bible est comparée à un marteau. Dans Jérémie 23, 29, chapitre 23, verset 29, hein, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ?» Le roc, c'est notre cœur, c'est un marteau qui brise notre orgueil. Un feu qui peut allumer aussi la flamme de l'amour divin dans notre cœur. Et puis, la parole de Dieu peut être comparée aussi, deuxième point, comme un pain vivant que Dieu donne à l'homme pour lui communiquer la vie éternelle. Jean 6, 48. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Et Jésus dit : Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Il y a le pain pour notre corps, mais le pain, le symbole pour notre vie éternelle. Et puis, troisième point, cette parole est une source rafraîchissante pour étancher la soif de bonheur, de paix, d'amour, de chaque et pour chaque être humain. Dans Psaume 36, 9, car auprès de toi est la source de la vie. Par toi, nous voyons la lumière. Par cette parole qui nous éclaire. Et puis dans Psaume 87, verset 7, et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Mais la parole de Dieu, c'est aussi une épée qui met à nu l'état moral intérieur de chacun. Nul ne peut se cacher en lisant la parole vivante du Dieu vivant. Nul ne peut dire « Rien dans cette parole ne me concerne ». Dans Hébreux 4, 12, il est écrit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace ». C'est pas juste vivant pour ne pas être efficace. Plus tranchante qu'une épée, quelconque a deux tranchants. Une épée a deux tranchants, tranche encore plus qu'une épée a un seul tranchant. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. On ne peut rien cacher au Seigneur, rien. Même ce que l'on ne prononce pas, le Seigneur sait d'où ça vient, avant même que, même si nous parlons dans notre tête. Cinquième point, c'est aussi une lumière, cette parole, dont le croyant a besoin pour se diriger dans la nuit morale de ce monde. Quelque temps, nous avons parlé de cette lumière sur notre chemin. Hein, dans Psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est celle qui éclaire mon cheminement dans cette vie terrestre pour me conduire vers cette lumière céleste. Et enfin, sixième point, c'est une ceinture de sécurité, cette parole vivante de Dieu, un garde-fou. Dans Psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Et enfin, c'est une révélation. Dans Matthieu, chapitre 25, verset 56, « Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. » Ce qui a été annoncé avant, en partie, s'est réalisé, s'est accompli. On voit que ce n'étaient pas des paroles vaines, ni des paroles mortes. Jean, chapitre 2, verset 19, Jésus dit « Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. » Avec tout ce que ça représente par rapport à son sacrifice, mais à sa résurrection. Au fait qu'il n'avait plus besoin de sacrificateur pour s'approcher de Dieu. Mais on pouvait y aller seul, chacun, individuellement, se présenter devant le Seigneur. Et dans Psaume, chapitre 22, versets 17 et 19, il avait déjà été écrit, « Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. » Ça nous fait bien penser à la crucifixion de Jésus. Ils se partagent mes vêtements, comme ça s'est passé. Ils tirent au sort ma tunique. Dans Romains, chapitre 5, verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Nous ne vivons pas dans la réalité de la journée, parce que Christ a déjà écrit des choses pour nous. On pourrait se dire, ah oui, c'est vrai, si on lit ça aujourd'hui, oui, d'accord, bon. Oui, mais ça a déjà été écrit avant. Comment tu l'expliques? La Bible aussi affirme des choses qui se réalisent pour chacun. Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Aucune parole vivant de la parole du Dieu vivant ne sont vaines. Elles se réalisent pour chacun, pour chacune, pour ceux qui acceptent et pour ceux qui refusent. Jésus, lorsqu'il était sur terre, ne mentionnait pas uniquement le côté poétique ou historique de la Bible. Quand il cite les Écritures, quand le diable vient le chercher, vient le tenter, vient lui promettre monts et merveilles, royaume et domination. Mais Jésus annonçait déjà cette parole comme une puissance capable de changer les vies. Parce qu'il a dit, cité dans Luc, chapitre 11, verset 28, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole et qui la gardent. » On pourrait, là en ce moment, peut-être que notre esprit, que notre cœur est à écouter, mais à ne pas garder. Or, Jésus dit, écoutez cette parole, mais elle n'est pas faite que pour écouter. Elle est là aussi pour la garder, pour qu'elle fasse quelque chose. Je peux vous donner une graine. Mais si vous ne la gardez pas et que vous la jetez ou que vous n'en preniez pas soin, elle ne va rien vous apporter. Jésus ne voulait pas seulement que les hommes lisent la Bible, sinon pourquoi avoir écrit une parole vivante? Autant faire une lettre morte. C'est ce qu'on fait d'un livre de poésie ou d'histoire, il voulait qu'ils obéissent à ses préceptes. C'est ce qu'il convient de faire avec tout ce qu'écrit le Créateur de l'univers. Lire et surtout garder pour qu'elle produise son fruit en nous. Enfin, parce qu'ils tiennent à elle, à cette parole vivante, des hommes sont aujourd'hui encore persécutés. C'est davantage encore une réalité aujourd'hui dans certains pays. Mis à mort pour posséder une Bible, emprisonné, chassé, torturé. Pourquoi ? Parce que c'est un livre qui dérange. C'est un livre qui a toujours dérangé et qui dérangera jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Ce n'est pas simplement des mots écrit sur du papier, c'est ce que nous avons vu, c'est une parole vivante. La Bible fait peur, pourquoi ? Parce qu'elle s'adresse au cœur de l'homme, directement, hein, comme cette épée. Quand la parole de Dieu te parle, elle va au fond. Elle ne reste pas uniquement dans tes oreilles. Bon, ça t'interpelle un petit peu là-dedans, bon, ça bourdonne un petit peu et ça s'en va, non. Quand cette parole de Dieu rentre, elle rentre jusqu'au fond. D'ailleurs, tu vois ce que tu cachais là, moi je suis au courant, hein. Même s'il n'y a que toi qui penses le savoir. Parce que cette parole montre la nature de l'homme dans ses moindres détails, dans ses moindres articulations. Mais aussi, c'est pas que ça, elle donne des solutions, elle avertit, elle annonce. Tout ce qui est écrit s'accomplira. Et plus nous avançons dans le temps, plus nous nous rendons compte quelle est vérité et réalité. Cette parole vivante du Dieu vivant. Alors, est-ce que nous avons bien conscience, est-ce que j'ai bien conscience que quand je lis cette parole, je ne fais pas lire qu'un livre, je lis les pensées de Dieu. Alors, quelle valeur a cette Bible pour moi ? Que Dieu bénisse sa parole.